tu m'emmerdes avec ta question.
C'est une bonne question.
Championne du monde
40-0.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Personne n'a eu le temps de l'annoncer comme l'avenir du triathlon qu'elle était déjà le présent. J'ai la chance dans cet épisode d'accueillir Emma Lombardi, 22 ans, et troisième du classement général des championnats du monde de triathlon sur cette année 2023. Disons les choses franchement, personne n'aurait vraiment parié sur ce résultat de la Française, non pas par manque de talent, bien au contraire, mais plutôt car Emma ne faisait que sa deuxième saison sur le World Triathlon Championship Series, le circuit de compétition internationale de triathlon, autrement dit l'élite de la discipline. De nature plutôt réservée, elle est pourtant rentrée dans la cour des grandes en mettant un immense coup de pied dans la porte et en se classant juste derrière une autre Française, Cassandre Beaugrand. Arrivée au triathlon par la natation, ce n'est qu'à la fin du lycée, vers 17 ans, qu'Emma décide de s'investir pleinement dans son sport. Oui, oui, vous pouvez faire rapidement les calculs, elle est donc arrivée au plus haut niveau en moins de 4 ans. Une précocité totalement hallucinante dans une discipline qui demande généralement une grande expérience avant de pouvoir performer. Malgré ce parcours fulgurant, Emma ne se prend pas la tête pour un copec et profite pleinement de ce chemin dans lequel elle se sent totalement à sa place. Elle répond avec beaucoup de spontanéité quand on lui demande comment elle s'est intégrée à l'équipe de France, très en place depuis des années, et quelles sont ses ambitions pour l'avenir. Emma Lombardi, c'est la fraîcheur incarnée et une nouvelle preuve que le triathlon français est peut-être le meilleur du monde. Salut Emma.
Salut,
comment,
ça va?
Comment vas-tu? Bah tu vas, tu... Ouais, bon... Ça va très bien et toi?
Très bien, merci.
On est dans les locaux de Saint-Gobain.
Ouais.
À la Défense à Paris, avec une sacrément jolie vue quand même au 13e étage. C'est pour vous dire que bon, on est dans, ouais, dans une grande tour. Saint-Gobain qui est un de tes partenaires.
Oui, exactement. Pour cette année olympique, ce sera mes partenaires. Je suis très heureuse de pouvoir être dans cette team et puis avec d'autres athlètes, différents sports. Donc ça permet plein de rencontres. Donc je suis vraiment super contente d'avoir pu intégrer Saint-Gobain pour cette année olympique.
Bon, c'est agréable de voir cette effervescence quand même qu'il y a autour du sport et à quel point les entreprises, les marques aussi... s'intéresse un peu plus au sport. Alors, il faudrait que ce soit tout le temps le cas.
Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'avec les jeux à la maison, il y en a de plus en plus qui sont tournés vers le sport et qui ont vraiment ouvert des choses pour les athlètes.
Ouais, et c'est très positif. Donc, bravo à ceux qui le font. Alors, bon, rentrons dans le vif du sujet quand même. Emma, ton sport, c'est le triathlon.
C'est ça.
Qui est un très beau sport, on le disait juste avant off. Malheureusement, un sport que encore certaines personnes ne connaissent pas ou en tout cas confondent avec
d'autres disciplines.
D'autres disciplines. On le rappelle quand même, le triathlon, c'est la course à pied, le vélo, enfin le cyclisme et
la natation.
Ah, je ne l'ai pas dit dans le bon ordre parce que c'est vrai qu'en compétition, ouais, on fait natation d'abord,
vélo,
puis vélo et enfin course à pied.
Ouais.
Et toi, donc, tu es toute jeune, hein, disons les choses, tu as 22 ans.
Ouais.
Tu viens de les avoir en plus.
Je les ai eus en septembre.
Donc, toute jeune, et tu as déjà un palmarès qui est hyper impressionnant. Je vais quand même me permettre de le dire parce que c'est quand même fou. Tu es championne de France junior en 2019, donc il y a 4 ans.
Ouais.
Tu as ensuite été championne du monde espoir en 2021.
C'est ça.
Puis, tu es rentrée, on va dire, dans la cour des grands il y a 2 ans,
ouais,
sur le circuit
c'est
pro
ça.
En 2022. Et en 2022, tu deviens juste championne du monde en relais mixte à Montréal,
oui,
avec Cassandre Beaugrand, Vincent Louis et Pierre Lecor. Tu fais 3e au championnat d'Europe.
Oui.
Championne d'Europe en relais mixte également.
Oui.
Parce que championne du monde, mais championne d'Europe aussi. Et en 2023, donc cette année, tu finis 3e du classement général du championnat du monde.
Ouais. C'est quand même un truc de dingue.
Ouais, 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 c'est clair que quand je repasse ces deux dernières années, des fois, je suis un peu sur le cul. Hein, on va pas se mentir.
Bah, on dit les... bah, c'est le mot.
Ouais, et c'est vrai que ça a été... en fait, je dirais depuis Edmonton, ça a été que une ascension un peu fulgurante.
Complètement.
Et c'est vrai que l'année dernière, en 2022, je découvre le circuit WTCS, les courses, mes premières courses avec les élites, donc avec les meilleurs mondiales, et la première se solde par une quatrième place. Donc c'est vrai que ça a été
c'est complètement
un peu
dingue,
la surprise, ouais.
Ton entrée dans la cour des grandes, ouais. Mais c'est quand même hallucinant.
Ouais, franchement, quatrième, j'aurais jamais pensé pour la première, et derrière, je dirais que ça a un peu lancé la machine. C'est vrai que au début, avant cette WTCS là. Je dirais que c'était un peu... comme j'étais jeune, on va dire que tout le monde était peut-être un peu réticent à ce que je fasse mon entrée déjà chez les élites, sur le meilleur niveau du circuit en triathlon. Et au final, j'ai eu ma chance. Et ça a fonctionné, donc derrière, c'était parti, quoi.
Tu dis que tu as eu ta chance, on reviendra un peu sur tes débuts en triathlon après, mais ta chance, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ?
C'était pour 2022, le calendrier que j'avais fait en début de saison, c'était pas du tout ça qui était prévu.
D'accord.
Ma première course, c'était une Coupe d'Europe élite à Carteira. Et j'ai fini deuxième derrière l'anglaise Beth Potter. Mm-hmm. Et après cette course-là, du coup, mon entraîneur l'entraîneur de l'équipe de France Espoir et Jeunes ont demandé à ce que je puisse rentrer sur la WTCS qui avait lieu à Yokohama.
D'accord.
Et au début, on n'était pas très sûrs parce que j'étais jeune,
ouais.
J'avais pas énormément d'expérience. J'avais fait deux Coupes d'Europe l'année d'avant, une Coupe du Monde. Donc voilà, je découvrais tout juste
le haut niveau
et le triathlon international. Et du coup, il y avait quelques réticences. Puis finalement, je suis rentrée sur la start list et j'ai fait ma course. Et
bim bam boum.
Ouais, bim bam boum. Du coup, ça s'est fait un peu comme ça. Et puis derrière, c'est vrai que ça a permis ça m'a permis d'ouvrir de nouvelles portes, ou en tout cas d'ouvrir plus vite que ce que je le pensais un objectif que je m'étais fixé, mais à plus long terme.
Pour que les gens se rendent compte, et les non-professionnels du triathlon, quand tu parlais de Beth Potter tout à l'heure,
ouais.
C'est elle qui a gagné le classement général cette année.
C'est elle qui a gagné cette année, ouais, voilà. Le classement général des WTCS. Ouais. Du coup, elle a été sacrée championne du monde.
Donc, ce qui était déjà une belle promesse quand tu sais que tu fais une deuxième place derrière une grosse cliente comme Beth Potter. Quoi.
Ouais, c'est clair. Surtout qu'en fait, elle vient de l'athlée, et sur cette course-là à Carteira, ça s'est joué en course à pied sur le D-Born. Et elle était allée au jeu, sur 10 000 à Rio, il me semble.
Mm-hmm.
Donc vraiment spécialiste de cette discipline-là.
Alors justement, tu parles de Beth Potter et de ses débuts en athlétisme. Toi, comment ça s'est passé, les débuts en triathlon ? Généralement, j'ai l'impression que les triathlètes ont toujours une discipline de prédilection à la base.
Ouais,
est-ce que c'était ton cas ?
C'est vrai. Moi, je venais de la natation. J'ai commencé la natation quand j'avais 5 ans. Et ça m'a suivi tout le long de ma scolarité. J'ai fait les classes du collège et du lycée en section horaire aménagée avec la natation. Donc vraiment à fond natation. J'ai découvert le triathlon vers mes 10 ans en faisant quelques courses par chez moi pour le plaisir. Et j'ai commencé à plus m'y tourner quand je suis rentrée au lycée. La natation était vraiment, vraiment prioritaire. J'étais vraiment plus focus là-dessus. Et puis petit à petit, au lycée, vers première, terminale, j'ai commencé un peu plus à aller sur le triathlon.
Donc ça a été, tu dis, j'ai fait des courses vers 10 ans de triathlon pour le plaisir. On peut faire des courses de triathlon vers 10 ans pour le plaisir ?
Mais bien sûr. Attends, quand t'es enfant, mais c'est trop drôle. Franchement, t'es surtout...
C'est quoi, c'est des mini-courses avec des toutes petites distances ?
Ouais, c'est des mini-courses, des toutes petites distances. Je sais plus, on devait faire 150 mètres ou 200 mètres, tu vois, en natation. C'était vraiment super court. Tu montais sur ton VTT. Moi, je me souviens... Il y avait une course par chez moi, là, on partait en VTT dans l'herbe, ça montait, tu vois, c'était un peu la gadoue, donc c'était rigolo, tu vois, t'es tout content, t'enchaînes des sports différents, la course, elle bouge tout le long.
C'est ludique.
Ouais, exactement. Donc ça changeait un peu de la natation et des bassins que j'avais toujours connus, et c'est vrai que je trouvais ça assez amusant.
Et du coup, au lycée, donc le triathlon, pourquoi ? Parce qu'on, est-ce que quelqu'un te dit, tiens, tu as l'air d'avoir des prédispositions sur les trois disciplines. Ça peut être intéressant que tu te focuses beaucoup plus sur le triathlon.
Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, en fait. Je faisais un peu d'athlée. J'avais fait les crosses aussi UNSS au collège. Et j'avais fait un peu d'athlée. Et on m'avait dit, voilà, t'es quand même... Si tu faisais du triathlon, pour une triathlète, tu serais vraiment bonne nageuse. Course à pied, ça va pas trop mal. Tu devrais vraiment aller regarder un peu plus vers le triathlon. T'as moyen de pouvoir faire quelque chose. Et du coup, j'ai commencé un peu à me tourner vers ça. En seconde, j'avais fait mes premiers championnats de France de triathlon. Donc, j'étais cadette première année. Et j'avais fini cinquième. Et la semaine avant, j'étais en compète de nade, donc je m'étais pas du tout entraînée pour le triathlon spécifiquement. Enfin voilà, j'avais fait quelques entraînements et du coup, c'est vrai que voilà, je fais le championnat de France, je finis cinquième et je me dis ouais, peut-être que
sans trop s'entraîner, c'est pas
voilà,
mal.
Voilà, je m'étais dit, ouais, exactement. J'avais un petit peu de course à pied, voilà, comme ça, un ou deux vélos par-ci par-là, mais voilà, sans trop pousser le truc Après, je me suis un peu plus tournée vers cette direction.
T'as été en club, t'as tout de suite été accompagnée, parce que tu parles du lycée. Pardon, mais t'as 22 ans, donc le lycée, c'était il n'y a pas très longtemps.
Ouais, c'était il n'y a pas très longtemps. Mais des fois, je me dis ça, puis après, je me dis, putain, ça fait un moment quand même. Hein.
Bon, oui.
Mais, bon, 5-6 ans. Tout est relatif, c'est vrai. Mais alors, en fait, mon premier club, ça a été du coup Chambéry Triathlon. Du coup, je viens de Chambéry, donc du coup, voilà. Et derrière, en seconde, j'ai pris ma licence au club des Vallons de la Tour. C'était leur nom. Maintenant, ils s'appellent Val du Dauphiné Olympique. Et je suis toujours là-bas. Donc, ils sont à la Tour du Pin en Isère. Et donc, j'avais ma licence là-bas. Mais par contre, j'étais moi toujours sur Chambéry parce que j'étais au lycée à Chambéry. Donc, j'avais le club de natation à Chambéry. Et il y avait aussi le club d'athlée qui était à Chambéry. Donc, je m'entraînais aussi un petit peu avec le club d'athlée. Et puis, sinon, c'était un peu, on va dire... du mix un peu fait maison, quoi. Voilà. mais c'était, je suivais surtout beaucoup la natation, quoi, les entraînements de natation. Au lycée, je nageais entre 6 et 8 fois par semaine.
Ok. Ah oui, donc c'était déjà très costaud en termes de natation.
C'est ça.
Et quand est-ce que ça a commencé à devenir, entre guillemets, sérieux au niveau du triathlon ?
Franchement, je dirais que. En terminale, j'ai commencé à nager un petit peu moins. Au lieu des 8 fois, je nageais que 6 fois. Ça me libérait deux créneaux qu'on avait pour la natation pour aller courir. Donc en terminale, je commençais un petit peu plus à être sérieuse en triathlon avec des entraînements plus réguliers en course à pied et en vélo. Franchement, avec les cours, je vais pas te mentir, je faisais en 12 et 15 heures max par semaine. Et je pouvais pas faire beaucoup plus parce que voilà, les cours quand même
prenaient du temps
et en fait tu finis les cours à 18h si tu veux aller nager ou courir, faut faire un choix, mais t'as pas énormément de temps à la fin de ta journée quand t'as pas trop non plus dans ton emploi du temps pendant la journée. Et du coup, en fait, post-bac, j'ai fait ma première année universitaire à Annecy en tech de co. Et
technique de commercialisation.
Technique de commercialisation, ouais. Et exactement. Et en fait, à la base, ça, c'est 2 ans. Et j'ai aménagé pour faire 3 ans. Et en fait, pour avoir plus de temps pour l'entraînement. Et en fait, je dirais que c'est vraiment après le lycée, après avoir eu le bac, où là, je me tourne vraiment vers le triathlon et où là, je commence vraiment à m'entraîner spécifiquement pour le triathlon.
Donc, tu avais 18 ans.
J'avais 18 ans, ouais.
Donc, c'était il y a 4 ans.
C'était il y a 4 ans. Ouais.
Ça me paraît complètement hallucinant.
Ouais, ouais, franchement, ça paraît fou. Bah, en plus, surtout, en fait, quand cette année-là, je commence à me dire, OK, je m'implique vraiment dans le triathlon, je vois si je peux faire quelque chose, c'est l'année Covid. Donc en fait, toutes les compétitions internationales sont annulées. Voilà, exactement. Donc il y avait, je devais faire la Coupe d'Europe de Carteira, c'est toujours la première Coupe d'Europe en junior, et donc annulée. Elle était en mars, donc en plein Covid, donc c'est annulé. Et en fait, toutes les compétitions derrière sont annulées. Donc cette saison-là, j'avais fait 3 courses, je crois, mais que en France. Donc c'est vrai que je m'étais donné un peu cette année-là pour voir si potentiellement il y avait
quelque chose à faire.
Et en fait, du coup,
il n'y a rien eu à faire.
Il n'y avait pas grand-chose finalement qui a pu en sortir parce que tout a été annulé, quoi. Et en fait, cet été-là de 2020, la fédération a organisé un stage pour les juniors U23 et à Font-Romeu. Et du coup, donc là, moi, je suis arrivée, je découvre du coup tous les autres qui se connaissent quand même depuis un certain temps. Et en fait, à la fin de ce stage-là, je prends la décision de quitter Annecy, de quitter un peu tout le foyer familial, voilà, parce que Annecy, c'est pas très loin de Chambéry, et d'aller m'entraîner au pôle à Saint-Raphaël. Donc du coup, voilà, je pars à Saint-Raphaël, et voilà, la saison 2021, c'est là où je découvre le triathlon international.
C'est là que c'est à partir de ce moment-là que ça t'a vraiment lancé dans le grand bain.
Exactement, parce que du coup 2020 est un peu coupé avec le Covid. J'avais fait 2 grands prix et il y avait eu les championnats de France junior pour ma part parce que j'étais encore junior à ce moment-là qui avaient eu lieu et c'était tout quoi. J'avais rien fait d'autre en course.
Ouais, c'est assez fou. Comment tu expliques? Parce que c'est quand même complètement hallucinant, je vais le dire probablement 110 fois pendant cet épisode, mais qu'en 2 ans, tu exploses tellement, si vite. Je veux dire, pour que les gens se rendent compte, dans le triathlon, il y a beaucoup de personnes qui performent, qui ont plus de 30 ans.
Ouais.
Là, pour le coup, alors on va mettre à part peut-être Cassandre Beaugrand qui n'a que 26 ans, mais Bess Potter, pour le coup, elle a 31 ans.
Ouais.
Taylor Spivey, qui a fait 4e juste derrière toi, elle a 32 ans. C'est plutôt des personnes qui sont plus matures, on va dire.
Ouais, c'est ça. On dit souvent que le triathlon, c'est un peu un sport à maturité. Et c'est vrai que du coup, je suis un petit peu précoce, on va dire. C'est la première fois que je peux dire ça depuis que je fais du sport parce que c'était pas du tout le cas en natation. Physiquement et puis même au niveau des performances, c'est vrai qu'en étant plus jeune, j'étais pas du tout. Pas du tout dans les meilleurs, voilà. Et c'est vrai que du coup, en deux ans, ça, un peu tout a changé. Et je pense qu'aussi le fait de vraiment me lancer dans le triathlon et vraiment, je dirais, complètement dedans. Être consistante dans les entraînements. Il y avait tellement en fait à faire en vélo et en course à pied parce que j'avais fait tellement peu avant que.
Mais tout à construire.
Quand j'ai un peu tout mis en place, c'est arrivé, assez vite.
En fait, finalement, tu avais peut-être des prédispositions dans les 3 disciplines mises bout à bout.
Ouais, exactement. Et finalement, mise bout à bout, ça a fonctionné. Et je pense que après mes qualités physiques correspondent aussi bien à l'effort du triathlon et que du coup, avec un peu d'entraînement, enfin un peu beaucoup d'entraînement, on va pas se mentir.
Dans le triathlon, vous avez beaucoup d'entraînement quand même.
Avec beaucoup d'entraînement, ça s'est tout mis en place.
Comment tu t'entraînes en fait ? concrètement, tu as trois disciplines. Est-ce que les trois disciplines, tu dois les faire tous les jours? Est-ce que c'est réparti sur une semaine? Quelle est ta dose d'entraînement par semaine sur ces trois disciplines-là? À quoi ça ressemble, en fait, une semaine type?
Alors, une semaine type, en gros, c'est entre 25 et 30 heures pour les plus volumineuses. Donc, ouais, ça tourne autour de ça en volume horaire. Généralement, en fait, on fait quasiment les trois tous les jours, les trois disciplines tous les jours. Le dimanche, on nage pas. La course à pied et le vélo, il y a six natations. 5 vélos et 5 courses à pied à peu près. 5 à 6 courses à pied, ça va dépendre des semaines et un peu dans le bloc d'entraînement dans lequel on est. Mais grosso modo, c'est un peu ça la semaine type avec une séance muscu par semaine.
D'accord. Donc voilà. C'est très dense.
C'est très dense, ouais. Les journées sont bien remplies.
Ça n'a pas été violent pour toi aussi de changer ton rythme d'entraînement et d'avoir tant de volume horaire ?
Ça m'a fait bizarre quand même. Franchement, ça m'a fait bizarre parce que même si en 2020, j'ai commencé à me tourner un peu plus vers le triathlon, à augmenter forcément du coup mon volume horaire parce qu'avant, c'était que la natation, donc t'as quand même beaucoup moins d'horaire. Enfin, c'est beaucoup moins volumineux, je dirais, même si... Maintenant, je nage beaucoup moins que quand j'étais nageuse. Oui. En volume horaire, ça représente quand même beaucoup moins. Mais c'est vrai que du coup, en arrivant à Saint-Raphaël, ça m'a fait un peu bizarre parce que ça faisait des grosses semaines on va dire que j'avais pas du tout l'habitude, on va dire quand même de ça. Même si j'avais eu l'habitude de m'entraîner et tout ça, là, on passe quand même sur des volume horaire assez conséquent.
Comment tu t'es adaptée ?
Plutôt bien. J'ai eu la chance de pas me blesser aussi parce que ça aurait pu arriver si j'augmente trop d'un coup le volume horaire, de me blesser en course à pied ou quoi. Et ça s'est fait quand même assez progressivement. Et du coup, j'ai eu la chance de ne pas me blesser. Après, il y a quand même eu des moments de fatigue où il a fallu quand même lever le pied parce que le corps, il suivait un petit peu moins, quoi.
Tu dis on augmente le volume horaire en entraînement, mais ce qui veut dire aussi une adaptation de tout le reste. Le sommeil, l'alimentation, tout ça. Alors, Dorian Coninx, que j'ai vu la semaine dernière, m'a dit qu'il mangeait à peu près 6000 calories par jour, ce qui nous a fait tous halluciner. C'est monstrueux. Alors, j'imagine que toi, c'est pas 6000 calories par jour.
Non, moi, c'est quand même un peu moins. Les garçons, ils ont tendance quand même à plus se dépenser que nous. Mais c'est vrai que du coup, en fait, en faisant les trois sports par jour, ça peut nous faire quand même des journées à 4-5 heures. Donc, c'est vrai qu'on brûle quand même beaucoup de calories. Il faut quand même recharger du coup derrière parce qu'il faut repartir le lendemain. Donc, il faut avoir l'énergie nécessaire. Et c'est vrai que du coup, on consomme beaucoup.
Est-ce que tu as eu une équipe qui s'est occupée de ça? Est-ce que tu as fait toute seule? Est-ce qu'on t'a dit, OK, en fait, à partir de maintenant, tu as un nutritionniste, tu suis ce planning d'entraînement, le sommeil, pareil, tu fais une petite sieste à cette heure-ci et tu te couches à telle heure, ou tu gères un peu par toi-même?
Alors, au niveau du sommeil, je gère par moi-même. Je pense qu'aussi ça dépend vachement des sportifs. Je pense qu'on est vraiment tous différents là-dessus par rapport justement à l'heure de coucher, combien d'heures de sommeil on a besoin par nuit, les siestes, pas siestes, voilà. Et nutritionniste, moi j'ai commencé à travailler avec une nutritionniste en 2022. On m'avait proposé de travailler avec elle et j'ai dit oui, pourquoi pas. Je pense que ça peut être intéressant de mettre ce suivi-là justement pour voir si justement j'avais les bons apports, que j'en avais suffisamment justement par rapport à la dépense, à l'entraînement, si je m'alimentais bien, suffisamment et tout ça, en fait, tous ces aspects, en fait, au-delà du repas qu'on peut avoir, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, en fait, il y avait plein d'autres choses à prendre en compte dans l'alimentation. Et du coup, j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Et du coup, je continue encore de travailler avec elle aujourd'hui.
D'accord, donc t'es quand même accompagnée sur tous les pans de la performance, on va
dire. Ouais.
Et toi, psychologiquement, en termes de changement de vie aussi, parce que là, on parle de l'aspect sportif, mais tu pars quand même de ta région.
Ouais.
Tu vas dans... Alors, entre la Savoie et Saint-Raphaël, il y a quand même une petite différence.
Ouais, les températures ne sont pas les mêmes. Hein. On ne vit pas dans... c'est un microclimat à Saint-Raphaël. Franchement, non, pour s'entraîner, c'est vrai que c'est quand même incroyable. Tout au long de l'année, voilà, il y a quelques fois, on a bien sûr de la pluie, mais enfin... Les conditions restent quand même vraiment super tout au long de l'année. On peut toujours, enfin.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Toute l'année, on peut rouler en extérieur et ça, c'était pas quelque chose qui était forcément possible chez moi. Donc là-dessus, c'est sûr que voilà, pour s'entraîner, Saint-Raphaël, c'est vraiment un super endroit. Et puis, je dirais que ça s'est Je me suis plutôt bien adaptée au fait de partir bah voilà, de la maison. À un moment, il faut quand même prendre son envol. Et je pense un peu d'aller découvrir autre chose par moi-même. Ouais, je suis plutôt contente et je m'y plais bien. Je m'y plais bien.
On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui te fait peur ou qui te déstabilise.
Si, quand même. Je pense que je peux être quand même assez... assez stressée. Après je pense que j'essaye pas mal d'internaliser, de contrôler en fait, de contrôler tout ça. Mais ça m'arrive quand même, ça m'arrive quand même d'être un peu déstabilisée.
Parce que ça a été tellement de choses, tellement de changements en très peu de temps. On peut se dire que c'est quelque chose qui peut avoir un impact aussi très fort à un moment donné, d'avoir tant de bouleversements en quelques années. Et on a la sensation que tu le vis quand même plutôt sereinement et que bah, tu suis ton parcours comme si c'était finalement ce pourquoi tu étais faite.
Bah, en fait, c'est un peu ça. Ouais. Je pense que je suis un peu trouvé ma voie et du coup c'est vrai que ça se fait pas sans accroc ou quoi, mais je dirais que je suis bien dedans, je suis bien accompagnée, voilà, ma famille ils m'ont quand même aussi bien soutenue dans mon projet. Ils auraient pu dire bah voilà, après l'ICI, le sport c'est fini, maintenant c'est les études. Moi j'entends beaucoup ça pour beaucoup d'athlètes où leurs parents disent ok, bah, c'est bien, maintenant le sport c'est terminé, tu te concentres sur l'école, il faut aller chercher un vrai boulot. Et du coup je pense que voilà, d'avoir aussi leur soutien, pouvoir échanger aussi avec eux, ça m'aide aussi bah, dans mon quotidien, dans mes entraînements, et puis pour être plus sereine.
T'as un grand frère aussi qui pratiquait le triathlon.
C'est ça, j'ai un grand frère et qui m'aide aussi beaucoup avec tout ce qui est extra-sportif. Voilà, lui, il aime beaucoup ça, ça l'intéresse énormément. Et moi, c'est pas forcément mon fort. Donc, du coup,
parle de l'aspect communication, c'est
exactement,
ça
communication, tout ce qui va être gestion un peu de partenariat et tout ça. Où bah, lui, voilà, je dirais qu'il est très ouvert, il parle très facilement, très très sociable, il arrive à... et puis je pense qu'aussi à me vendre, je dirais, un peu plus que moi, que les athlètes en général. Je pense qu'on a un peu plus de mal à aller et à dire voilà, bonjour, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et du coup je pense qu'on se complète plutôt bien, et moi aussi ça m'enlève un peu, je dirais, une épine du pied de devoir gérer ça, et je peux vraiment être focus sur les entraînements et sur les courses, sur mes objectifs.
D'accord. Bon, c'est quand même une petite histoire de famille, finalement,
ouais,
le triathlon.
Ouais, c'est quand même une petite histoire de famille, ouais. Ouais. Mais du coup, ça aide aussi, je pense, pour bah, comprendre ce que je fais. Lui, il en a déjà fait, ma maman aussi. Donc, c'est plus D'accord. facile quand même pour échanger là-dessus et pour comprendre un peu tous les fonctionnements.
La vie d'un triathlète qui a l'air assez spécifique quand même.
Ouais, exactement. Même si là, c'est... c'est beaucoup plus poussé vu que c'est à haut niveau, je dirais. Mmh. Et donc, eux, c'était pas forcément voilà, des compétitions internationales, mais bon, ils comprennent forcément en ayant fait bah, du sport, du triathlon, ils comprennent. Voilà,
ils ont la fibre sportive.
Exactement. Exactement.
Pour revenir sur l'équipe de France, à proprement parler, donc toi, tu arrives dans le haut niveau, dans l'élite, il y a 2 ans. Dans une équipe de France qui est quand même assez solide depuis un certain nombre d'années,
ouais.
Que ce soit chez les garçons ou chez les filles, c'est les mêmes têtes qui performent depuis un certain nombre d'années. Alors chez les filles, Léonie Perriot et Cassandre Beaugrand qui étaient un peu les deux têtes d'affiche jusqu'à présent. Comment ça s'est passé aussi ton intégration dans la team qui était une team plutôt solide depuis 2 Olympiades, c'est à peu près on va dire les mêmes athlètes. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué toi de te faire une place?
C'est vrai que j'étais un peu stressée parce que du coup tout le monde se connaît, ça fait depuis un moment qu'ils courent tous ensemble, ils ont fait du coup les équipes de France junior ensemble, là du coup équipe de France élite ensemble, donc c'est vrai que on va dire que du coup c'est un cercle qui se connaît bien. Et finalement, ça s'est bien passé. Tu vois qu'il y a une très bonne ambiance, tout le monde s'entend très bien. J'apprends encore à les connaître, mais au début, c'est sûr, forcément, je suis la petite nouvelle, je ne parle pas beaucoup en plus. Donc il y a un petit temps, je dirais, d'adaptation, et puis pour un peu trouver sa place. Et maintenant, je dirais que franchement... c'est quand même une équipe bien, bien soudée et je pense que du coup, ça se reflète aussi sur les résultats sportifs, que ce soit individuels ou collectifs.
La France a toujours brillé sur les épreuves mixtes.
Ouais.
Y a eu une médaille de bronze au dernier jeu à Tokyo. Cette place-là aussi dans l'équipe mixte, c'est quelque chose qui est important pour toi ?
Ouais, carrément. Franchement, je pense que... On veut tous être dans le relais, on veut en faire partie. C'est comme tu dis, c'est un peu dans l'histoire du triathlon français, le relais il a une grande importance et je pense que c'est une épreuve qu'on affectionne tous énormément. Et bien sûr que j'espère être dedans, mais en tout cas j'espère que ce relais il brillera encore au jeu à Paris, encore plus qu'à Tokyo.
Sur ce relais mixte-là, il y a Cassandre, il y a Léonie. Quand tu es arrivée aussi dans cette équipe, alors Cassandre, c'est vrai qu'elle a pris beaucoup la lumière ces dernières années. Elle a fait des résultats très bons.
Oui, puis elle était très aussi précoce.
C'est vrai
qu'elle a été très tôt sur le circuit international. Des fois, c'était... la seule Française en fait qui faisait les WTCS, il n'y en avait aucune autre et elle était vraiment jeune. Donc c'est vrai qu'on connaît beaucoup de Cassandre, je dirais que c'est un peu chez les filles notre tête d'affiche en triathlon en France.
Ça t'a pas fait peur toi justement qu'elle prenne tant la lumière dans la discipline ?
Je dirais que c'était plus que moi je puisse trouver ma place là-dedans sans qu'en fait on
vous mette en compétition
forcément. C'est ça, ouais, exactement, tu vois, qu'on soit un peu dans les pattes l'une de l'autre, vraiment que voilà, je pense qu'on a toutes les deux nos spécificités. Et qu'on vraiment, elle a déjà trouvé sa place, ça fait depuis un petit moment, mais moi que je trouve ma place à moi sans aller lui courir dans les pattes ou quoi, enfin vraiment en étant sur ses plates-bandes quoi, vraiment trouver ma place à moi.
Après ça doit pas être évident parce que je veux dire vous êtes quand même dans une discipline où vous êtes concurrente ou
c'est
d'arriver première.
C'est sûr.
Donc il y a un moment donné t'es forcément obligée, si c'est logique d'essayer de lui passer devant quoi.
Évidemment c'est sûr hein, voilà hein, ça reste un sport individuel le triathlon, voilà, quand on est sur la ligne de départ on veut être la première.
On veut gagner.
Exactement, on veut être la première sur la ligne d'arrivée, peu importe qui est à côté de nous, qui sont nos concurrentes. Mais je pense qu'on arrive à le faire de façon plutôt saine, voilà, de vraiment laisser la compétition à la compétition et les temps qui sont hors compétition à être dans quelque chose de sain, parce que je pense que sinon... ça se ressentirait aussi, je pense, sur nos performances et sur les courses, quoi. Mmh. En fait, si si c'était la guerre, rien qu'à, enfin, déjà avant la course, si c'est déjà la guerre, je pense que c'est compliqué après pendant la course aussi, quoi.
Et comment t'expliques que la France est une tellement bonne nation en triathlon? Ça fait des années quand même que vous dominez. Il y a les Anglais aussi qui sont très bons. Enfin, voilà, il y a d'autres nations qui sont très bonnes en triathlon. Mais vous, c'est quand même là cette année, quand on regarde tous les podiums des différentes étapes, il y a quasiment toujours un Français dessus, quoi.
Ouais, ouais, c'est clair que la France, on a une très bonne nation en triathlon. Les Anglais aussi, les Américains. Les Américaines. Et bah, je dirais qu'il y a beaucoup aussi d'émulation, en fait. Je pense que le fait qu'il y en ait un, peut-être, qui commence à vraiment réussir à être régulier, à faire des podiums, bah, en fait, de plus en plus, ça va aussi booster les autres à vouloir faire mieux, et puis à vouloir être, bah voilà, meilleur que celui qui fait justement tout le temps les podiums. Et je pense que ça nous booste vraiment tous vers le haut, parce que bah, comme tu dis, après, quand t'es sur la ligne de départ, t'es en compétition, tu vas devant l'autre, et puis voilà, et là il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, et voilà, les Jeux Olympiques, c'est que 3 dossards. Donc, voilà, faut montrer aussi que voilà, tu peux être dans ces trois-là pour aller aux Jeux Olympiques.
Tu dis ça va être 3 dossards. Comment ça va se passer, la sélection? Parce que toi, en toute logique, tu as, sur le papier, sécurisé une place pour les Jeux en terminant 3e des championnats du monde, alors, sur le ranking. Mais c'est pas vraiment le cas, finalement.
Non, alors en fait, nous, comme on avait des critères pour être présélectionnés, cette année, et c'était soit un top 3 au test event, donc là on était présélectionnés, ou si on faisait un top 8 au test event et un top 3 à la grande finale, on pouvait être aussi présélectionnés. Et cette année, il y a Cassandre, Dorian et Pierre qui font ce critère de présélectionnable pour les Jeux Olympiques, qui doivent reconfirmer l'année prochaine sur une des WTCS avec un top 6.
D'accord.
Voilà. Et
tu le fais aussi, toi, du coup. Ouais. Tu finis 4e sur les test events.
Non, et je finis 6e à la grande finale.
Ah oui,
et
d'accord.
Il aurait fallu que je fasse podium sur la course de la grande finale.
D'accord, je pensais que c'était sur le classement général.
Non, c'est vraiment, en fait, ils nous ont aussi beaucoup parlé. Enfin, ils nous ont aussi beaucoup dit que, voilà, l'important, c'était la course d'un jour. Parce que on était... Bon, sur la série, régulier, mais voilà, qu'ils voulaient vraiment qu'on arrive à être performant sur une course ciblée, sur une course d'un jour, comme ça va être pour les Jeux Olympiques, donc nous préparer à ça. Et du coup, c'était pour ça qu'ils avaient mis ça comme critère.
D'accord.
Et que pour le moment, donc, en triathlon, on n'a personne de sélectionné officiellement.
Ouais.
Ça sortira que fin mai 2024, la sélection officielle pour les Jeux. Et du coup, je rebondis pour le nombre de dossards. Donc en fait, c'est avec le ranking olympique. Et si dans une même nation, tu en as 3 qui sont dans le top 30 du ranking olympique, et bah, du coup, ta nation a 3 dossards. Voilà.
Chez les hommes et chez les femmes.
Alors, faut être 3 oui. Femmes, du coup, ouais, c'est ça, 3 femmes dans le ranking olympique.
3 et 3.
Voilà.
Exactement. Pas 3 pour tout le monde.
Non,
parce que là,
c'est 3 et 3. Et comme,
là, ce serait terrible.
Nous, on est, enfin, le relais est qualifié et qu'on est pays organisateur des Jeux, on avait déjà 2 dossards sûrs. En fait, à partir du moment où ta nation a le relais qualifié, tu as 2 dossards de sûr pour les garçons et pour les filles. Et pour en avoir, du coup, un 3e, c'est le max. Tu ne peux pas avoir plus que 3. Ouais. Et ben, c'est top 30 du ranking olympique.
D'accord.
Voilà.
Bon, c'est quand même plutôt...
C'est bien embarqué. Ouais. Normalement, normalement, à part grosse défaillance de notre part, vraiment gros souci... C'est quand même plutôt bien embarqué. On devrait avoir nos 3 dossards pour Paris.
Et puis pour toi aussi, alors sauf, je ne te le souhaite pas du tout, mes blessures.
Oui,
mais
oui.
Sinon,
bon. Hormis blessures, si on va dire, si je fais au moins aussi bien que cette année, normalement ça devrait être, ça devrait aller aussi.
Tu te projettes sur les Jeux? Alors, tu te projettes forcément parce que tu as quand même fait le test event au mois d'août.
Bien
qui
sûr,
était quand même
ouais.
Une répétition générale, ouais. Et avec le vrai circuit. Circuit. que vous aurez l'été prochain.
Oui.
Comment tu t'es sentie?
Bah, c'est vrai que du coup, ça faisait vraiment une répétition et puis un peu une, un avant-goût, je dirais, de ce que ça peut être les Jeux Olympiques, même si après les Jeux Olympiques, ça reste vraiment particulier. Voilà, c'est une compétition particulière, une ambiance particulière. Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir pu tester justement ce parcours, le découvrir un an avant les Jeux, commencer déjà à prendre des repères. Et puis ça s'est bien passé, franchement.
Mais tu fais quatrième.
Je suis quatrième, moi j'étais quand même vraiment contente de ma course. Donc aussi voir que j'arrive à répondre aux critères de la course d'un jour, voir que voilà, la prépa qui a été mise en place, ça fonctionne, ça rassure un peu aussi. Donc je pense que c'était que du positif, ce test event en août dernier.
J'ai vu que tu disais dans une interview que tu avais encore des petits points de travail.
Ouais,
les petits points de travail?
On a toujours, j'espère, en plus à 22 ans, j'espère, j'ai encore. Mais j'ai encore pas mal de petits points de travail, notamment sur tout ce qui est vitesse, explosivité, changement de rythme en course à pied où c'est vraiment pas forcément. Enfin, c'est moins mes qualités physiques. Et du coup, il y a encore du boulot à faire là-dessus. Mais c'est cool parce que si là je te disais je suis au max, je sais pas quoi faire d'autre, franchement ce serait dommage. Donc là c'est cool, j'ai d'autres challenges, j'ai d'autres choses à aller chercher. Donc
tu sens que ta marge de progression elle est importante?
Je pense qu'elle est encore assez importante. En fait, au-delà des petits points de travail que je viens de te dire, je pense aussi au niveau de l'expérience. Voilà, on le disait tout à l'heure, tu vois, il y a des filles qui ont 30 ans, 32 ans. Elles en ont fait un paquet de triathlons, de courses à ce niveau-là. Moi, je dois en avoir fait, si je cumule ces deux années, je dois en avoir fait 10 WTCS en tout. Et c'est vraiment ridicule par rapport à elles. Donc, je pense qu'au niveau expérience... Niveau tactique de course et tout ça, il y a encore plein de choses à faire et à apprendre.
Est-ce que tu penses que peut-être cette naïveté, cette fraîcheur dans le circuit t'a servi?
Ouais, je pense un peu quand même. Après, j'observe quand même ce qui se passe pendant la course. J'essaye d'être quand même assez intelligente dans les choix que je fais pendant la course. Mais après, il y a des fois où voilà, je vais tenter des choses peut-être qu'avec plus d'expérience ou avec plus un peu de maturité, plus tard je ferai pas forcément, mais que là je tente parce que pourquoi pas en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre en le faisant quoi.
T'es bien là où t'es à l'heure actuelle, tu sens vraiment que t'es à ta place et que c'est le chemin de vie que tu veux suivre sur les prochaines années?
Franchement ouais, après voilà. Forcément, il y a des moments où c'est bien sûr plus compliqué. Il y a des périodes plus difficiles, de doute, où il peut y avoir des blessures, de fatigue, on en parlait, ou même des fois mentalement, c'est dur. Mais après, d'un autre côté, ça, avec tout ce que ça apporte de positif, comment les courses se passent, et même en fait au-delà des courses, même l'entraînement, moi je, franchement l'entraînement, des fois je trouve ça, enfin ça m'apporte des fois autant de joie qu'un résultat de course. Du coup je dirais que je me sens quand même plutôt bien, ouais, et que je suis sur un peu mon bon chemin quoi.
C'est génial.
Ouais. Bah ouais, franchement, franchement c'est, je me revois encore au lycée, au collège, quand on nous demandait ce que tu veux faire
dans la vie.
On nous demande tout le temps ça, et je trouve, à 15-16 ans, enfin même avant, à 13 ans, comment tu peux répondre à ce que tu veux faire dans la vie?
Tu disais quoi?
Moi, je savais pas. Moi, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et je me disais, putain, ça se peut, je trouve... Pardon. Ça se peut, je trouve, j'ai pas trouvé ma place ou ce qui va vraiment... me plaire et vraiment que j'ai envie d'y aller, tu vois, de me lever et d'aller faire chaque matin, quoi. Et finalement j'ai trouvé quand même.
Et ça, t'as pas mis trop de temps.
J'ai pas mis trop de temps. Mais bon, après, qui sait ce que l'avenir me réserve. peut-être que je trouverai encore une autre passion dans 10 ans qui me plaira tout autant.
Bah, si tu as encore 10 ans à haut niveau en triathlon, tu signes, ça va quand
ah
même.
Bah direct. Ah franchement je signe et franchement si dans 10 ans tout a roulé, tout est allé et j'ai pu faire 10 ans de triathlon de carrière, franchement donnez-moi le papier, je signe.
Je te le prépare. Attends, et cet aspect, parce qu'on n'en a pas trop parlé, alors on disait forcément que c'était beaucoup d'entraînement, que c'était une amplitude horaire énorme aussi. Disons les choses, hein, quand vous finissez un triathlon, vous êtes dead.
Ouais, ouais, on est fracassé, c'est, franchement.
C'est presque de la torture, c'est ce que vous ressentez quand même.
C'est dur, franchement, le D-Born à la fin, il peut être un peu dur, on va pas se mentir. Ouais, on finit, on passe la ligne. Bon, de toute façon, t'as qu'une envie, à la fin, c'est passer la ligne hein, quand même, on va pas se mentir, mais ça te tape bien partout, quoi, musculairement, enfin partout. Partout.
Et on y retourne quand même.
On y retourne quand même, bah parce qu'on y aime quoi. On aime un peu, on aime un petit peu cette douleur quoi, tu vois. Puis bon, je dirais qu'on l'expérimente quasiment tous les jours à l'entraînement. Alors bon, une fois de plus ou deux mois en course, voilà quoi. On y pense plus trop. Ou des fois, on y pense un peu trop peut-être pendant la course où là, tu te dis putain, elle est où cette ligne d'arrivée là.
Ouais, voilà. Mais c'est bien. Ouais. Du coup, c'est la balance entre le plaisir et la douleur.
Exactement. Ouais. Ouais. Bah faut quand même trouver du plaisir, je dirais
dans la
souffrance. Ouais. C'est un peu bizarre de dire ça mais c'est sûr que si c'est un calvaire à chaque fois, franchement t'as pas envie de te mettre dedans et d'y retourner quoi.
Tu penses à quoi pendant les cours?
Tu
m'emmerdes avec ta question.
C'est une bonne question. Franchement, je suis quand même pas mal focus sur ce qui se passe autour de moi. Je suis pas mal en fait dans la course quoi, centrée dans la course à regarder ce qui va se passer autour de moi et à voir un peu comment la course se déroule surtout vélo course à pied parce que natation je vois pas grand chose je vais pas te mentir quand on est dans l'eau là tous ensemble à se taper les unes sur les autres
t'essaies de pas couler quoi
t'essaies de pas mourir noyé t'es là tu vois là donc la natation je dirais que je suis vraiment focus sur mon start, sur aller être le moins gêné possible, aller chercher la première bouée. Et puis après, pour le vélo ou la course à pied, j'analyse pas mal aussi comment la course va se configurer. Tu vois, si on a un petit groupe, si on a un gros groupe, les écarts qu'il va y avoir, qui est avec moi. Donc voilà.
T'es obligé de connaître en fait par cœur les qualités de tes adversaires.
Ouais.
Si tu sais que t'es dans un gros groupe et qu'il y en a certaines qui sont hyper bonnes en finish.
Ouais.
Il vaut mieux essayer. Enfin, en fait, t'es obligé de les connaître.
T'es obligé de connaître un peu tes adversaires pour savoir un peu leurs points forts et du coup essayer de jouer un petit peu sur leurs points faibles. Et c'est sûr que quand t'es un gros groupe et que tu sais que t'as des très bonnes coureuses. Coureuse avec, faut aussi t'adaptes aussi un peu ta stratégie en fait sur le vélo et sur les efforts je dirais que tu vas faire.
Maintenant tu te considères aussi bonne en tout cas aussi performante en natation sur le vélo et en course à pied.
Je dirais que les trois sont plutôt équilibrés, ouais. Je dirais que avant je t'aurais pas répondu ça parce que voilà la natation avait quand même une prédominance dans les trois disciplines, mais à l'heure actuelle je dirais que c'est quand même plutôt équilibré entre les trois, ouais.
Et tu prends autant de plaisir dans les trois ?
Ouais. Après bien sûr il y a des périodes où ça va être parfois plus compliqué dans un sport que dans l'autre, où je vais prendre du coup plus de plaisir, par exemple, que plus de plaisir en courant qu'en nageant ou qu'en roulant. Mais globalement, quand même, je me fais vraiment plaisir dans les trois sports.
C'est génial. Bon, ça y est, tu as vraiment trouvé ce que tu aimes faire, Emma.
Yes,
comme si tu avais besoin
bon.
De moi.
Objectif de vie validé, c'est bon.
C'est clair. On arrive à la fin de notre entretien. Merci beaucoup.
Ça, c'est passé vite, hein, franchement.
C'est une heure. Hein.
Ouais.
Tu te rends compte?
Ouais.
Dernière question. peut-être la dernière, on verra si jamais j'en pose encore derrière, mais dernière question, le podcast s'appelle Championne du Monde. Quelle est ta définition de ce qu'est une championne?
Oh là là, c'est une question dure. Franchement, je sais pas, je pense que c'est quand même au-delà des résultats sportifs, je dirais. Peut-être même en fait au-delà du sport, de manière générale, les épreuves que tu peux traverser dans la vie, comment elles t'impactent, comment t'en ressors derrière et comment tu les utilises aussi pour en faire une force. Ouais, je dirais à peu près ça.
Très bien. Et toi, tu es sereine pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
D'être à Paris en juillet.
Déjà, dans un premier
mais
temps.
Mais pas sur le bord de la route. Hein, pas en tant que signaleuse. Hein,
Au départ.
Au départ.
Ouais,
au
départ.
Et à l'arrivée aussi, j'espère. Oui,
c'est bien de le préciser quand même.
Parce qu'au départ, c'est bien, à l'arrivée, c'est encore mieux. Quoi.
Et pour la suite, tu te vois comment évoluer dans ta carrière? Oh, bon, c'est un peu présomptueux de dire ça maintenant, mais.
Je dirais que, comme au cours de ces deux dernières saisons, continuer d'évoluer, de courir avec les meilleurs mondiales et puis essayer de moi aussi d'aller petit à petit marquer un petit peu le triathlon, voilà, marquer un petit peu ma discipline, je dirais.
Marquer l'histoire du triathlon, c'est beau.
Ah, ce serait très beau, ouais.
Ce serait beau.
Ouais.
Et on croit en tout cas très fort en nos Français pour Paris 2024. Pour après, bien évidemment, parce qu'on parle beaucoup des jeux, mais voilà, une carrière ne s'arrête pas non plus, en tout cas la tienne, clairement pas. Hein.
J'espère aussi, ouais, parce que sinon ça aurait été une carrière très courte.
Fulgurante.
Ouais. Après, qui sait, je vais peut-être pendant les jeux trouver un autre chemin de vie qui va me plaire et je vais te dire, finalement, après Paris, je pars sur toute autre chose.
Bon, écoute, j'en doute, je te le souhaite pas, sauf si ça te rend heureuse. Mais...
Oui.
Mais en tout cas, déjà, on sera là pour poursuivre... tes aventures sur l'année 2024, sur toute la saison, parce que encore une fois, il n'y a pas que les chances de Paris 2024 non plus, même si c'est la principale de votre saison, quand même.
Oui, il y a
disons les choses.
Il y a aussi d'autres choses. Ouais.
On peut suivre le triathlon à la télévision, et ça, c'est important de le dire aussi, parce que tous les sports ne peuvent pas se suivre, et ça, c'est le cas. Donc, allez suivre les compétitions, suivez nos Français qui sont hyper performants et qui sont merveilleux et qui portent ce sport. Donc voilà, donc je n'ai rien d'autre à dire que et retenez ce nom. Emma Lombardi, parce qu'elle va faire des grandes choses dans les années à venir. Je vous le dis, moi.
Dis, ok.
Je vous le dis. Voilà. Merci beaucoup, Emma, pour ce moment.
Merci.
Et puis, écoute, bon courage pour ta nouvelle saison. Et puis, on se croisera peut-être sur le parcours des Jeux. En tout cas, normalement, j'y serai. Donc,
avec plaisir.
Pas sur la ligne de départ, moi.
Pas
pour
sur
le
la ligne de départ, ok. Sur la ligne d'arrivée?
Sur la ligne d'arrivée, mais, mais côté, je serai en face. Moi, je vous regarderai.
Côté zone mixte.
Je vous regarderai décéder. Exactement. Merci beaucoup, Emma. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.